Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, comme d'habitude évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, c'est un véritable carton. Vous vous précipitez tranquillement cet après-midi pour écouter évidemment les grandes gueules du sport. Nous avons évoqué l'arbitrage ce matin après la semaine polémique autour de l'affaire Longoria. On a évoqué le 15 de France à une semaine de cette rencontre entre l'Irlande et la France. Interview exclusive également de Tadej Pogacar. On en a passé un morceau à suivre demain dans Bartoli Time à partir de 19h30. Bref, c'est déjà disponible en podcast, toujours avec nos GG Fred Weiss, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieu. On parle de Ferrari dans quelques instants. À 11h30, le dossier des GG. Arsène Wenger veut révolutionner le foot avec ses nouvelles propositions, pour ou contre. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Je vais vous demander d'ailleurs, réfléchissez quelques instants à votre avis sur le débat caché. On va juste faire un point avec Léna Marjac en direct de Kranjskagora pour le slalom géant homme. On en est où, Léna?
Mais c'est terminé, on aura deux Français en seconde manche. Déjà Loewen Parent, parti avec son dossard 48, il est allé chercher pour la première fois de sa carrière une qualification en seconde manche en Coupe du Monde. Donc Loewen Parent a terminé 30e et dernier qualifié de cette première manche à Kranjskagora. Et le deuxième Français, c'est Thibaut Favreau. Lui va jouer tout autre chose parce qu'il peut aller chercher une place sur le podium. Il a terminé 5e à 3 dixièmes donc de ce podium. Thibaut Favreau qui reste sur une très belle performance au Mondiaux, 6e du géant des Mondiaux il y a 2 semaines. Donc tout à l'heure, il pourra aller chercher pour la première fois de sa carrière, lui aussi, eh bien, une place sur le podium. Rendez-vous donc à 12h30 pour suivre nos deux Français, Loewen Parent et Thibaut Favreau.
À tout à l'heure, Léna. Alors, ce débat caché à 11h45, d'après vous, ça va vous plaire. Vraiment, c'est un très bon débat caché. Mais quel est ce débat caché, Fred Weiss?
On n'a pas parlé de basket du tout aujourd'hui.
Ah oui.
Et donc je sais que tu as envie de me faire plaisir, parce que là tu m'as vraiment pas forcément gâté sur tous les sujets.
Ouais.
Donc je me dis que tu pourrais parler de Rudy Gobert qui a annoncé à demi-mot qu'il ne viendrait pas en équipe de France, par exemple.
Très bon débat caché. Tu as raison, pour l'Euro. Hein.
Pour l'Euro.
Exactement. Il y a un doute.
Il y a un doute, et en plus Victor Wembanyama, il y a un gros doute aussi, donc... Je pense qu'il y avait un truc à faire sur ça.
Ok, alors un problème à l'intérieur, c'est ça.
C'est ça.
On a un gros problème en défense, comme disait.
On a un problème de taille.
Isabelle Nanty dans un film. Oui, Sarah.
Alors, moi, j'espère que tu as pensé à ce débat-là parce que comment on va dire? Il apparaît évident. Est-ce que lorsqu'on est condamné et qu'on a une sanction pour 4 dopages, est-ce qu'on doit faire profil bas? Je parle de Yannick Sinner, qui sur ses réseaux sociaux, il fait un décompte de prisonniers chaque jour, jusqu'au moment où il pourra reprendre à jouer au tennis. Mais son décompte fait, où en fait c'est des superbes photos de lui de mode en fait. Voilà, et il fait des décomptes avec ses photos de mode. Et je trouve que c'est quand même un tout petit peu indélicat, vu sa situation. Voilà. Est-ce qu'on devrait faire profil bas quand on a, quand on a une sanction pour dopage?
Ok, Pascal Dupras.
Sans grande conviction, mais comme tu colles toujours à l'actualité, donc je vois bien un débat sur le Grand Prix de MotoGP qui a repris.
Non, c'est pas son chance, truc.
Les chances de Quartararo cette saison, parce que sa machine a l'air de bien marcher. Il a fini 7e à la première épreuve au sprint. Donc voilà, peut-être quelle place pour Quartararo cette année.
Ouais, peut-on le retrouver au plus haut niveau?
Voilà, quelque chose comme ça. Mais comme t'as dit que ça va nous, il m'a cassé les reins quand il a dit ça va beaucoup vous plaire. Ouais. Pourtant, ça doit pas être ça.
Ah, mais tout à l'heure, il m'a peut-être mis sur la piste. Il m'a dit, t'as vu le Français là?
Oui.
Golf. Il est deuxième d'un tournoi dont j'ai jamais entendu parler. Comment c'est?
Conizan Classic.
Comment tu dis?
Conizan Classic.
Le Conizan Classic.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait débat là-dessus.
Non, mais un Français remportera-t-il d'ici 100 ans un grand tournoi majeur de golf, peut-être?
Tu te donnes la réponse ou pas?
Jean-Christophe Drouet, peut-être.
Alors, vous allez voir, Mathieu Pavon gagnera un majeur d'ici peu. Ok. Et là, il est deuxième du Conizan Classic. D'ailleurs, j'en profite. Merci beaucoup, Christophe, pour cette passe décisive. Il y a eu la reprise du Practice RMC, le podcast golf de référence. Désormais, nous sommes là deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, évidemment, lundi prochain, nous allons débriefer le Conizan Classic et cette performance, on l'espère, majuscule de Mathieu Pavon, le Practice RMC. C'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de David Rockefeller qui a dit un jour, une amitié née des affaires vaut mieux qu'une affaire née de l'amitié.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comme nous passons l'essentiel de nos journées au travail, la ligne séparant l'aspect personnel et l'aspect professionnel dans nos relations avec nos collègues peut parfois devenir floue.
Avec Lewis, ça s'est super bien passé. On a passé pas mal de moments ensemble. On a beaucoup, beaucoup joué aux échecs.
Il est donc fondamental de faire preuve d'un minimum de réserve et de prudence dans les choses que l'on partage auprès de nos collègues.
Hamilton got the launch off the line, goes around the outside, it's in his teammate. Lewis Hamilton turns into George Russell.
Se plaindre à ses collègues d'une directive, du comportement d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique est un grand classique. Mais ce classique aura souvent tendance à provoquer un magnifique effet boomerang.
Come on, Charles, don't do this. They'll give me a position immediately.
Oui, vous pouvez construire de véritables amitiés sincères sur votre lieu de travail. Mais gardez en tête que beaucoup de relations professionnelles ne sont que superficielles et circonstancielles.
Attention, les deux Ferrari se sont touchés. Que c'est idiot, que c'est bête.
Veillez donc à faire preuve d'un minimum de retenue et votre carrière vous en remerciera.
N'oublie jamais.
Hamilton a passé une étape de plus dans sa nouvelle maison. Les derniers tests grandeur nature cette semaine de la SF25 sur le Grand Prix de Bahreïn. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont poursuivi les essais hivernaux à deux semaines du grand début de la saison en Australie. Le Monégasque a d'ailleurs dominé hier la troisième et dernière journée d'essais. Alors depuis la présentation de la nouvelle Scuderia il y a 10 jours à Londres, les deux pilotes Ferrari affichent leur complicité au point même de disputer en pleine cérémonie une partie d'échecs. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Hamilton, Leclerc, croyez-vous à la merveilleuse entente? Oui ou non? Sarah Pitkowski?
Non, je pense que si c'était le cas, ce serait une toute première.
Fred Weiss?
Évidemment que non.
Évidemment que non. Pascal Duprat?
Moi, je suis toujours contrariant. Je veux dire oui.
Il va dire oui. Et tu as bien raison d'être contrariant.
Il y a des arguments aujourd'hui.
C'est
qui
ce qu'on aime dans cette émission.
Ça pourrait être possible. Hein.
Christophe Cessieux?
Pas une seconde.
Ah non, c'était trop beau l'entente. Ça a duré une heure et demie, quoi.
Même pas.
15 minutes.
Allez, un petit débat. Et
un
encore.
Petit débat.
Avant de débattre, on va retrouver notre commentateur F1, c'est Nicolas Paul Orsi. Salut Nicolas. Nicolas, c'est une lune de miel rêvée entre les deux pilotes, l'écurie rouge qui voit la vie en rose.
Cette ovation, c'était à Londres, il y a 10 jours, lorsque Lewis Hamilton s'est présenté sur la scène de l'O2 Arena devant 15 000 fans. Un Hamilton nouveau, on l'avait vu parfois usé l'an passé chez Mercedes. Depuis son arrivée chez Ferrari, il dégage l'énergie d'un rookie, d'après le boss de l'écurie Fred Vasseur. La superstar britannique s'adapte à son nouvel environnement.
Je me concentre sur mon intégration dans l'équipe. Ça peut sembler long, mais je ne suis là que depuis un mois. J'ai beaucoup de choses à emmagasiner en peu de temps. On a beaucoup travaillé avec le team et avec Charles.
Sur ces 3 jours d'essai, tous les regards étaient braqués sur Hamilton. La presse italienne a de nouveau réinvesti le paddock pour scruter ses moindres faits et gestes. L'entente avec Charles Leclerc est pour le moment parfaite et le Monégasque ne semble pas souffrir d'être retourné un peu dans l'ombre.
C'est sûr que c'est exceptionnel d'avoir Lewis en tant que coéquipier. C'est une énorme opportunité pour moi. Je l'ai dit, je pense, 150 fois et même à vous, mais je vais me le répéter. Mais l'opportunité d'apprendre de lui et en plus de ça, de montrer ce que je sais faire. Donc je pense pas que ce sera très compliqué. En plus ça, avec Lewis, on a vraiment eu un super feeling dès le début. On en avait déjà un très bon avant qu'il rejoigne Ferrari. On a toujours été assez proches. On partage pas mal de passions au-delà de la Formule 1. Donc on avait toujours quelque chose à se dire. Et ça n'a pas changé depuis qu'il a rejoint Ferrari. Donc voilà, non, ça se passe super bien et ça continuera comme ça.
On sent la complicité entre les deux et tu as raison, JC, aux échecs, ça se cogne sévère entre Hamilton et Leclerc.
Pour l'instant, il y a 1-0 pour moi, mais là, je suis dans le dur. Sur la partie qu'on a en ce moment, j'ai un peu de mal.
Ferrari semble avoir toutes les cartes en main pour retrouver un titre de champion du monde pilote ou constructeur. L'enjeu principal de la saison pour Vasseur sera certainement de conserver cette osmose entre ces deux pilotes.
Merci beaucoup Nicolas Paolorsi pour ces précisions. Vous l'avez entendu, cette lune de miel est parfaite pour l'instant entre les deux pilotes. Je vois le regard des GG. Personne n'y croit, ou presque. Si, Pascal y croit encore. Croyez-vous à la merveilleuse entente, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. La reprise de la saison, c'est dans deux semaines et ça va forcément être fantastique. C'est dimanche 16 mars à Melbourne. Pourquoi non, Sarah?
Pourquoi non? Alors déjà, quand on voit ce qui se passe depuis 15 jours, cette attractivité médiatique d'Hamilton cumulée au prestige de Ferrari, on en prend plein les yeux. Hein. Et donc en fait, ça renvoie Leclerc au rang de spectateur en termes de notoriété.
Oui, pour l'instant, ce qu'il est en train de dire, pour l'instant, il dit ça ne me dérange pas, au contraire,
exactement.
C'est génial.
Finalement, effectivement, le fait d'être un petit peu en retrait, la pression et les projecteurs vont être sur Hamilton. Donc peut-être que ce statut-là lui convient en disant « je vais travailler de mon côté avec mes ingénieurs, regardez Hamilton, vous allez voir ce qui va se passer ».
C'est sûr qu'ils n'ont pas d'égo du tout, hein, Sarah, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas du tout d'égo.
Tu vois, après cette bonne entente de façade, j'ai essayé d'aller chercher quand même. Et puis alors là, je suis tombée sur un truc. Il y a une étude qui a été menée par une université anglaise qui donc a travaillé, en tout cas qui a étudié sur le fait de posséder deux grands pilotes dans une saison. C'est pas du tout une bonne idée. Et là, vous me voyez venir. Il y a quand même un cas. Non, je suis allée quand même un peu plus récemment.
Rosberg, Hamilton.
Exactement. En 2014, effectivement, cette étude a été faite en 2014. Et selon cette étude, qui porte sur 30 années de F1, avoir deux top pilotes dans une écurie, c'est néfaste. Mais en plus, ça conduit à une baisse de performance, des performances individuelles des uns et des autres. Alors, la seule solution pour que ça puisse marcher, c'est toujours la même chose. Il faut que la stratégie, elle soit claire. Qui est le numéro 1 ? Et qui est le numéro 2? En tout cas, l'année 2014 entre Rosberg et Hamilton, pardon, ça a été défini, mais ça n'a pas été respecté
alors,
pour autant.
Le problème, c'est que la hiérarchie, elle va s'établir, elle peut s'établir en cours de saison, en fonction des résultats des uns et des autres. Si Leclerc domine régulièrement Hamilton ou l'inverse, il y aura un pilote qui sera privilégié pour la fin de saison pour essayer d'obtenir plus de victoires et pour essayer d'aller chercher un
Vasseur
titre.
Vasseur a dit qu'il voulait les deux titres, hein. Constructeur et pilote.
Mais ça veut dire qu'au début, les mecs vont se tirer la bourre comme des malades.
Leur concurrent principal, c'est le mec qui est à côté dans la même voiture.
Ça s'appelle une saine émulation.
Ton premier concurrent, ton premier rival dans une course de Formule 1, c'est ton coéquipier.
Oui.
Parce qu'il est censé avoir la même voiture que toi. Donc c'est le premier que tu dois battre pour ensuite avoir justement quelques petits privilèges de premier pilote. Après, moi, j'adore ça, hein. Moi, j'adore ça. J'adore quand les pilotes vont vraiment se tirer la bourre. J'ai détesté un moment dans l'histoire de la Formule 1, c'est quand Schumacher était le maître absolu chez Ferrari et qu'il avait un vassal, un grégario, on appelle ça en vélo, comme deuxième pilote et qui faisait tout pour que.
Mais pourtant Leclerc avec Sainz,
ils étaient deux contre un, quoi.
Oui.
Non. Leclerc, il a l'air docile. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Tendu sur la fin, Pascal. Hein.
L'année dernière, ça a été compliqué entre les deux quand il fallait
faire nourrir le débat,
l'autre.
Parce qu'autrement, les auditeurs vont s'ennuyer avec vos arguments.
Ouais, mais c'est donc un peu comme quand Ferrari était avec Barrichello. On s'ennuie avec toi. T'es un peu le Ferrari des grandes gueules du sport.
En fait, ce que je voudrais simplement vous dire, il y a bien sûr la glorieuse incertitude du sport, mais ils incarnent. Pardonnez-moi, je vais pas être très tendre avec Hamilton, mais ils incarnent deux générations. Il y a passé, il y a le futur. Et je pense qu'Hamilton, aujourd'hui, il a envie de séduire la Scuderia. Il est heureux d'être là. Il prolonge son rêve. Il a certainement de hautes ambitions. Mais comme l'a très bien dit.
Et tu sais qu'il a battu Leclerc sur les deux journées d'essai, hier et avant-hier.
Mais sur les essais, ça veut dire quelque chose malgré tout. Mais on va attendre les 15 jours qui viennent et surtout le premier Grand Prix. Mais moi, je pense une chose, c'est que Leclerc, il a aucune raison de vouloir des relations tendues avec Hamilton, parce que comme intelligent, il va profiter de son expérience. Et tu sais ce qui va régler le tout ? Je pense sincèrement, je me mouille. Hein, je pense sincèrement que Leclerc va d'amener le pion à Hamilton
sur la saison.
Naturellement, il y aura une
hiérarchie. Les ambitions sont antinomiques. Mis à part le fait d'être champion du monde des constructeurs avec Ferrari, mais Hamilton, il rêve de quoi dans cette saison? Il rêve, un peu comme un Pogacar, d'avoir tout gagné avec Mercedes, et ensuite, en changeant d'équipe et en allant dans la voiture la plus mythique, la voiture rouge, celle qui fait rêver tous les pilotes, d'être à nouveau champion du monde avec cette voiture. Et là, son rêve de pilote parfait serait accompli. Et je pense qu'il vient pas en pré-retraite chez Ferrari. Loin de là.
C'est bien ça le problème.
Je suis absolument d'accord avec toi.
Ancien qui est justement comme ça, qui a envie de continuer.
Mais il a la pas aux lèvres, Hamilton.
Un plus récent qui a envie d'être aussi.
Et lui.
Il y a pas de leader déterminé. Les deux vont se battre les uns contre les autres. À un moment, tu peux pas avoir cette amitié. Et bon, j'ai pas fait les mêmes études que Sarah par rapport à ça, mais moi j'ai un poulailler et j'ai deux coqs. Et dès que je mets deux coqs dans le poulailler, ça se bastonne.
C'est la merde.
Donc à un moment, il faut pas deux coqs.
Il faut
déterminer celui qui est le meilleur.
J'ai François qui nous dit via le direct studio. Bonjour les GG du sport. Déjà bonjour à toi François. L'entente entre Hamilton et Leclerc ne sera possible que si Hamilton se met au service de Leclerc.
Ouais. Qui semble
je vois comme ça. Ça semble
impossible.
Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche.
Une passation de pouvoir malgré tout. Moi, je vois ça comme ça. Parce que les résultats vont faire que Leclerc va aller plus vite qu'Hamilton.
Mais je ressens.
C'est un compétiteur pour
Hamilton. C'est un tigre, Hamilton. Mais rappelle-toi ce qu'il était capable de
Leclerc
faire sur
aussi.
Le cisne. Mais justement.
Leclerc aussi.
Mais c'est justement pour
justement
ça que je te dis
coques.
Que ça va chauffer, quoi.
Non, mais c'est deux garçons extrêmement intelligents. Et quand Leclerc, dans son interview, dit qu'ils s'entendent bien depuis plusieurs années, c'est vrai.
Mais bien sûr.
Ils ont une très
Rappelle-toi de ce que disaient Prost et Senna. Quand Senna est arrivé dans l'écurie McLaren, Prost était aussi un pilote déjà confirmé. Il aurait pu se dire, je vais passer le relais à mon coéquipier brésilien.
Oui,
tu crois que c'est ce qui s'est passé?
Ils avaient déjà gagné tous les deux. Oui.
Non, mais des coureurs de ce niveau-là, ils arrêtent jamais dans leur tête. Jamais ils veulent passer le pouvoir. Ils veulent être les meilleurs. Ils veulent gagner.
Senna n'était pas champion du monde. N'avait jamais été champion du monde. Et comme Leclerc ne l'a jamais été. Donc Leclerc va vouloir faire comme fait Senna, c'est-à-dire prendre la première place. En plus, il était en quelque sorte le premier pilote la saison dernière. L'avoir arrivé à Hamilton, il n'est plus tout à fait le premier pilote. Donc, quelque part,
quand tu compares avec Prost, il me semble qu'Hamilton a vraiment, vraiment beaucoup gagné.
Mais il veut encore plus.
Titre de champion du monde. En fait, Prost avait encore les dents qui rayaient le parquet, comme c'est pas possible. Même si Hamilton a encore envie de gagner, je te rejoins dans ce que tu dis, je pense que la course va démontrer que Leclerc est plus rapide. Donc fatalement, ça tombera sous le sens qu'ils deviennent tout d'un coup à son service.
Donc ils ne seront pas potes. Il est en train d'expliquer Pascal qu'ils ne seront pas potes.
Ça m'amène à une double question. Si on essaye de faire avancer le débat, on sait que Frédéric Vasseur, que l'on avait eu d'ailleurs dans Bartoli Time, a déclaré fin décembre qu'il n'y aurait pas de hiérarchie, qu'il n'y aurait pas de numéro 1. Est-ce que la position de Ferrari, après ils se sont mis tout seuls dans cette position, mais bon, qui refuserait d'avoir Lewis Hamilton? La position de Ferrari, elle est quasiment intenable parce que tu peux pas désigner numéro 1 et numéro 2 maintenant. On est bien d'accord là-dessus. Imaginons que Leclerc gagne les deux premiers Grands Prix. Imaginons. Est-ce que vous voyez quand même Ferrari annoncer et dire Leclerc est notre numéro 1 quand tu viens d'embaucher Hamilton.
Ce sera pour la courte saison à l'approche du titre.
Et ça veut dire quoi pendant la course, Hamilton va recevoir des consignes, on le laisse passer?
Pas tout de suite.
Si Leclerc gagne.
Oui, donc imagine la situation, Hamilton, on va lui dire, laisse passer.
Ouais, mais c'est ce qui est arrivé avec Russell et
Leclerc. Mais imagine la situation quand même.
Franchement, mais vous oubliez aussi la concurrence. Mais si Leclerc gagne, ça voudra dire qu'Hamilton n'est pas loin. Et ça voudra dire donc que Ferrari domine le championnat. Et moi, je trouve ça bien. Si on a premier, deuxième, Hamilton et Leclerc, je fais vite l'économie de Verstappen. Hein. C'est pas dit encore tout ça.
Oui, t'as raison.
Mais admettons que ça fasse premier, deuxième. Et moi, je rêve de voir ça. Qu'ils se battent pour le titre alors qu'ils sont qu'ils concourent pour la même écurie.
Et après, ils vont jouer aux échecs. Je crois plus au concours de baffes qu'au concours d'échecs.
Alors nous aussi, on a envie de voir Ferrari 1 et 2. Enfin, on n'oublie pas les autres, comme tu l'as dit. T'as cité Verstappen. Oui. Il faut citer aussi les McLaren avec Lando Norris.
Les McLaren, les Williams qui remarchent bien.
Mais ce qui serait intéressant, là c'est sûr, la merveilleuse entente, s'ils se disputent le titre de champion du monde, là ça risque d'être un peu plus complexe.
Bien sûr.
On va accueillir Nicolas qui veut réagir au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour les TGV, ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous? On va très bien. Nous on s'entend parfaitement bien. À deux, trois exceptions près, mais on s'entend bien.
Ils détestent tous.
Oui, on sait, Christophe. Mais toi Nicolas, est-ce que tu crois à cette merveilleuse entente?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est que de la communication. Pour moi, ça va être la guerre entre les deux. S'il y a de la performance, bien sûr, si Ferrari est performant, parce qu'il ne faut pas oublier McLaren, même Mercedes, le petit Italien Antonelli, là, il fonctionne pas mal en essai libre. Et puis Red Bull, Verstappen. Mais par contre, si ça joue pour le titre, Charles Leclerc, faut qu'il monte l'écrou. Et à un moment, ça fait 6 ans qu'il est dans la Scuderia Ferrari. Apparemment, c'est le prodige, mais il y a un moment, faut qu'il fasse. C'est de la même génération de Max Verstappen, mais il y a un moment, faut qu'il joue le titre, quoi. Faut qu'il y aille. Faut qu'il arrête d'être gentil. Faut qu'il arrête, parce que là, ça va être contre Lewis Hamilton, et en fait, ça va être un peu le méchant. Parce que tout le monde va croire que bah, il combat Lewis Hamilton, ça va être un peu le méchant. Mais sauf qu'il faut qu'il soit méchant, faut qu'il joue pour le titre, parce qu'il a, pour moi, il a le potentiel pour être champion du monde. Et pour Lewis Hamilton, pour moi, je pense que c'est la fin. C'est très beau ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait d'aller à ce que derrière Ferrari. Mais pour moi, par rapport aux performances qu'il a eues avec Mercedes, il s'est fait battre par Russell. Pour moi, Russell, c'est pas non plus un futur champion du monde. Et même s'il met la tunique rouge, je veux dire, Vettel, après les 4 titres, a mis la tunique rouge, a pas gagné de championnat, quoi.
Je pense que Hamilton sa dernière saison chez Mercedes était un peu en roue libre. Il avait plus la motivation, mais que la motivation il l'a retrouvée en changeant d'écurie et en prenant la voiture rouge. Et on va voir. Et je l'espère en tous les cas de quel bois il se chauffe et s'il reste le grand pilote qu'il a été. On rappelle septuple champion du monde quand même.
Et c'est dans 2 semaines.
C'est pas rien.
Donc le Grand Prix de Melbourne, et forcément on en reparlera dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. C'est le grand moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour Paris Saint-Germain-Liverpool. C'est mercredi prochain à 21h. Vous viendrez avant dans les studios RMC assister aux émissions. Ensuite le match avec la personne de votre choix. Puis retour à RMC pour l'after, évidemment le débrief de la rencontre. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16. Il est 11h27. Vous avez jusqu'à 11h. 32, ça peut vous aussi vous arriver, PSG Liverpool.
Bien sûr,
se gagne uniquement sur RMC. Toi, tu dois aller voir la direction pour voir si tu gagnes tes places.
Parce que j'ai un copain qui m'a bien.
Oui, mais là, c'est pas possible. Ah non, ça s'adresse aux auditeurs.
Eh ben,
tu n'es pas un auditeur d'RMC. Non, tu fais. C'est toi la star. Ok. Allez, à tout de suite sur RMC pour le projet de loi Wenger. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, toujours avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Un débat caché de haute volée. Vous allez aimer BGG, vous allez débattre, vous ne savez rien pour l'instant. Sur le golf, ça arrive, c'est dans 10 minutes, c'est pas sur le golf, mais même si. Allez Mathieu Pavon, deuxième du Conizone Classique.
RMC, le dossier des GG.
Alors, ce week-end a lieu, mes GG, la 139e Assemblée Générale Annuelle de l'IFAB, l'instance qui régit les lois du jeu. Je parle de football, parce que le football pourrait connaître de gros changements dès cet été au cœur des débats. Plusieurs réformes, l'arrêt du chronomètre lorsque le jeu s'arrête, les annonces des arbitres à tout le stade pour expliquer leurs décisions, ou encore celle qui fait le plus parler, la loi Wenger, du nom évidemment de son inventeur, Arsène Wenger, ancien entraîneur et désormais directeur du développement du football mondial. À la FIFA, une loi qui révolutionnerait totalement, mais alors totalement, le hors-jeu. Avant de débattre, on va retrouver pour plus de précision notre journaliste RMC Sport, Antoine Guillet. Bonjour Antoine.
Salut JC, salut les GG.
Alors que salut, propose Antoine. Précisément salut, Arsène Wenger?
Alors Arsène Wenger propose de revoir la surface du corps qui sera considérée comme hors-jeu. Terminer les hors-jeux pour des mains qui dépassent de quelques millimètres. Avec la loi Wenger, il faudra que votre corps entier soit entre le dernier défenseur et le but pour être en position de hors-jeu. L'objectif de cette révolution, c'est de favoriser les attaquants, les buts et le spectacle. Autre conséquence directe, beaucoup moins de hors-jeux seront sifflés et les entraîneurs devront complètement repenser leur tactique défensive. Et forcément, cette proposition, elle divise. Si José Mourinho est ouvertement contre le changement de la règle, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, semble plutôt ouvert à cette idée. Écoutez-le.
Moi, je suis un ancien défenseur, donc j'aimerais pas. Mais pourquoi pas? Et si ça peut permettre à ce qu'il y ait plus de buts, plus de spectacles, pourquoi pas?
Alors cette fameuse loi Wenger, elle a déjà été testée pendant des tournois de jeunes en Suède et en Italie. Les discussions débutent aujourd'hui à Belfast, en Irlande du Nord. Et si l'évolution de la règle est votée par 75% des représentants de l'IFAB, la loi Wenger entrera en vigueur dès le 1er juillet.
Merci beaucoup Antoine Guy. Vous l'avez compris, une loi qui pourrait totalement révolutionner le foot, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, eh bien, il faudra que la surface totale du corps de l'avant-centre dépasse du défenseur. Donc il peut et il sera à chaque fois en avance sur le défenseur. Le projet Wenger. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? C'est très simple. Pour ou contre ? Christophe Cessieux.
Moi je suis pour. Entièrement pour. Mais surtout sur les autres règles. Parce qu'il y a quatre règles.
Pascal Duprat.
Contre. S'il s'agit de la loi Wenger, contre. Et uniquement de la loi Wenger.
Sarah Pitkowski.
Je suis pour.
C'est pour, okay.
Ouais, je suis pour.
J'adore. Pour.
Ok.
Ouais, ce qui m'inquiète, c'est que le plus spécialiste d'entre nous est contre.
Ouais, mais tu sais,
c'est forcément.
Non, mais ça va.
Tu sais, au bout du compte, Donald voilà. Trump des
allez-y.
Du sport.
Ça va. Ça va.
Par excellence, ouais. Quoi.
Hein, je vais rester mesuré quant à ma réponse.
Je vais essayer d'être objective et si Pascal me convainc, je change d'avis.
Alors Pascal, ouais. tu as
c'est
du travail.
Très simple.
Parce qu'il faut convaincre. Il faut convaincre Sarah. Vas-y.
Le football, c'est le sport roi. Le football, ces règles ont été inventées il y a bien longtemps maintenant. Le football, il y a des règles qui l'ont fait évoluer, et j'en conviens, notamment avant les gardiens de but, on pouvait leur faire des passes, ils prenaient le ballon à la main, tu pouvais gagner du temps, donc il y a des choses qui ont été très utiles. Or, pour ce qui est du hors-jeu, j'ai l'impression, malgré le respect profond que j'ai pour Arsène Wenger, que ça va être contre-productif. Et je vais simplement donner cet exemple-là. Puisque nous allons moins maîtriser l'aspect défensif, là je parle des entraîneurs, ben qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'adapter, les entraîneurs contemporains vont s'adapter et on va avoir des blocs très bas, voilà, en permanence, parce que la frilosité d'aller chercher, d'aller défendre en avançant, parce que le hors-jeu va être favorable en quelque sorte aux attaquants.
Donc c'est voulu pour être plus offensif, mais ce sera plus défensif.
Tu vas plus te faire chier, voilà, à regarder. Et puis la dernière chose, c'est que cette règle-là, elle est incompréhensible. Bien souvent par les non-initiés, dont beaucoup sont autour de cette table, pardon.
Oui, non, t'as raison, de vous embêter. Le hors-jeu, okay.
Ce que j'aime dans la règle du hors-jeu aujourd'hui, c'est que tous les amis qui regardent le foot avec moi, ils ne le voient pas, parce que pour la plupart, ils ne comprennent pas la règle.
Mais même les arbitres ne le voient pas.
Il faut que ça continue, comme ça. Et à plus forte raison.
Comment tu veux savoir comment tu veux voir un hors-jeu
Christophe,
quand il faut que ralenti de la VAR pour
attends,
savoir qu'il y a
attends,
un moment
place
où il y a un grand point qui dépasse et qu'il faut
plus sérieusement, tu penses
n'importe quoi, justement, Pascal.
Christophe, plus sérieusement, tu penses que sous prétexte tu as mis cette règle-là où il faudra tout le corps derrière la ligne de défenseur, tu penses qu'il y aura moins de vidéos? Non mais tu plaisantes ou quoi? Chaque fois qu'il y aura une action litigieuse, on fera appel à la vidéo. Chaque fois qu'il y aura un but, on fera appel à la vidéo. Comme aujourd'hui.
Eh bien, supprimons la vidéo.
Tu vas voir des blocs reculés encore plus. Moi, j'ai pas envie que le foot, j'adore le handball, mais j'ai pas envie que le foot soit avec des équipes qui se recroquevillent bientôt dans leur surface de réparation. Un bloc défensif dans sa surface. Okay. C'est ce qu'on verra.
Moi c'est étonnant. Voilà. C'est justement le contraire dont j'avais l'impression, mais encore une fois, je maîtrise pas le foot autant que Pascal, mais justement, j'avais l'impression pour le spectacle, c'était une vraie avancée. Parce que enfin, on allait avoir plus de buts, parce que qu'est-ce qui manque souvent, c'est ces buts.
Et que l'action soit arrêtée en fait, et qu'elle soit stoppée.
Un mec a les pieds derrière son défenseur, il a juste la tête, il commence son sprint et que déjà il est hors jeu. Ben moi je trouve que c'est compliqué quand même.
Pardon, juste est-ce que ça va être un peu technique hein, je suis désolé, mais est-ce qu'on décale pas le problème?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décale un peu.
Aujourd'hui, on mesure la taille de la chaussure pour voir si elle a passé le défenseur, donc s'il est hors jeu. Mais dans le sens inverse, imaginons un attaquant qui est devant le défenseur et puis il a juste son bras là et puis juste le bout du coude qui touche le devant du défenseur, vous voyez, il sera en jeu, il sera pas.
Mais qu'est-ce que ça change quand il aura que le pied? Le pied qui fait qu'il est en jeu. C'est pareil.
On est d'accord. Problème, en fait. Mais je suis d'accord avec toi.
Je l'avais pas compris comme ça. Parce qu'il faut aussi que vous considériez une chose. C'est un art de bien défendre. C'est un art de défendre ensemble.
Et c'est un défenseur qui
veut. Et là, vous allez, on va couper, on va couper. Non, je suis pas défenseur, je suis un amoureux du foot et de ses règles.
De haut niveau.
Non, j'étais pas un ancien défenseur.
T'as pas joué avec la veuve et de l'opprimé.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Revois tes fiches. Pas du tout.
C'est vrai.
Et si vous voulez, je suis pas là pour faire ma promo, mais en fait, tout simplement, c'est un art de bien défendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vont faire les entraîneurs? Contrarier cette nouvelle règle. Donc reculer.
Mais c'est une certitude, ça, parce qu'encore une fois, sur le papier, parce que tu parlais, parce que le début de ton discours, moi, me plaît pas du tout. En disant, il y a des règles qui ont pas été changées, c'est bien, etc. Je pense que le sport est en perpétuelle évolution. Si tous les sports. Tout parce qu'il y a des changements, parce qu'on veut plus de spectacles, parce qu'on veut plus de buts, etc. Donc, toi, tu es certain. Toi qui connais encore une fois, je demande aux spécialistes, tu es certain que
moi il l'a dit. Pour lui, les blocs vont justement pour pas être pris par le hors-jeu et qu'il y a un attaquant devant, ils vont redescendre.
Si c'est le cas, c'est moins intéressant.
Après, je voudrais revenir sur les autres règles avec Christophe. Mais vas-y,
est-ce que cette règle de tout le corps, est-ce qu'on ne peut pas juste la circonscrire au pied? Parce qu'en fait, le foot, c'est un jeu.
Je vois pied aussi, Banquier.
Mais t'es, écoute.
Et c'était pas le cas avant? C'était pas le cas avant, le hors-jeu, il n'était pas juste jugé.
Si, mais
avec,
ce qui a modifié, aujourd'hui, tu stigmatises parce que justement la télé te montre, les images te montrent que tiens, il y a une partie du corps qui laisse en jeu ou hors-jeu. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut l'améliorer. Attention, encore une fois, grand respect à Arsène Wenger, il connaît le football, il n'y a aucun souci là-dessus.
La solution, ce serait pas de supprimer cette VAR, d'accepter finalement la nouvelle
loi Wenger, juste la VAR pour les buts,
sur une impression générale de l'arbitre. Oui, bah
on sera plus juste sur la corruption. Là, je pense que s'il y a un mot au-dessus de la corruption, je pense qu'on va l'avoir.
De vous dire simplement que la VAR, c'est un support à la prise de décision, mais ce support-là est piloté par des hommes. Mm-hmm. Donc on améliore, la prise de décision.
Comme ça, en fait. Tout ce qui est électronique et tout ce qui est vidéo dans le sport, en fait, n'est pas considéré par ceux qui regardent et même ceux qui sont les sportifs. Je pense pas qu'on le considère comme un outil. On le considère comme une preuve qui doit être absolument utilisée. Et ça, tu fais ça dans l'escrime, tu fais ça dans le tennis, tu fais ça dans le rugby, partout. À chaque fois qu'on a mis la vidéo, ça doit être la preuve absolue.
Et mais là, pour le hors-jeu, pour le coup, c'est la preuve absolue. Aujourd'hui, telle que la règle du hors-jeu.
Mais toi, t'essaies de dire
que soit tu dépasses le défenseur, soit tu dépasses pas le défenseur.
C'est tout. C'est une règle absolue.
Sur les autres idées d'Arsène Wenger.
Alors là, il y a plein d'autres bonnes idées, parce que je crois qu'il y a quatre règles qui vont être discutées. La deuxième concerne le chrono. Vous savez que dans un match de foot, le chrono ne s'arrête jamais.
Ouais.
Et du coup, à la fin du match, c'est au petit bonheur.
On est à 100 minutes maintenant.
Mouiller. T'as de temps en temps des temps additionnels de 8, 10. À un moment, c'est monté quasiment à un quart d'heure.
Ouais. Ça, c'était pendant la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, c'était des matchs
alors
à 110 minutes.
En rugby, il y a une règle qui veut que lorsque le jeu s'interrompt, le chrono s'interrompt, comme ça, les arbitres, les acteurs, les téléspectateurs, il n'y a pas de discussion.
Tu
joues 80 minutes, et après 80 minutes, quand le ballon sort des limites du jeu, c'est la fin du match. Donc moi, je ne comprends pas déjà pourquoi ça n'est pas mis en place par le foot. Franchement, ça, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'opposants. La troisième règle, elle concerne les communications des arbitres au stade entier, c'est-à-dire que il va expliquer aux gens pourquoi il prend telle décision. Il sera sonorisé, on en parlait tout à l'heure, la sonorisation. On veut que les arbitres se mettent
comme ça, tout
à
monde
parler,
comprendra ce qui se passe exactement.
Et puis alors la dernière, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est la règle du challenger qui permettrait à une équipe sur une situation précise de faire appel à la VAR. La VAR aujourd'hui, elle est l'apanage des entraîneurs, des arbitres. C'est eux qui font appel à la VAR jamais d'autres. Là, ce serait un challenge comme il y a en tennis.
Comme il y a en escrime aussi, on a le droit de demander la vidéo pour voir.
Alors, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit continu dans un match. Mais tu vois,
ça va être limité.
Si tu as raison, tu gardes ton challenge.
C'est exactement ce qu'on a au basket. Nous, on a le droit à deux challenges en théorie. Ouais. Sauf que si après le premier, tu te trompes, tu perds ton challenge, c'est fini. Tu n'as pas de deuxième en fait.
Ah, tu n'as pas de deuxième.
Tu as un deuxième uniquement si tu as réussi ton premier challenge.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est plutôt intéressant.
Moi, très bien.
Okay. Voilà, moi je trouve que ces idées sont bah, plutôt
toutes
pas
les,
mal.
Toutes les
même
toutes
si
les règles que tu as énoncées,
dit de Wenger que c'était un naufrage de vieillir, il est quand même culotté de dire ça. Franchement, le mec il a réfléchi. Alors sur le hors-jeu, je suis d'accord, ça se discute.
Est-ce que tu sur le hors-jeu, tu modifies les comportements en
ouais.
fait pour au bout du compte la même chose, parce que le corps soit entièrement derrière la ligne ou une partie du corps, ça change quoi en fait? Par contre, tu vas initier des réflexes défensifs. Moi, c'est un point de vue. Encore une fois, on n'est pas obligé de le partager. Après, pour toutes les autres règles, bah, si le temps, on est sur le temps effectif et le temps s'arrête chaque fois qu'il y a un temps mort, tant mieux. Tant mieux.
Bon, c'est
voilà,
discuté.
Comme ça, on n'aura pas les débats.
C'est discuté en
Pascal,
tout cas.
Pascal Duprat, oui. entre 1982 et 86, lorsqu'il jouait au Stade Brestois, a quand même inscrit la bagatelle de 13 buts. Il était attaquant,
jouais milieu de terrain offensif ou attaquant, mais c'est pas grave, ça.
Mais vu l'équipe dans laquelle il jouait, il jouait plutôt en défense. Il jouait derrière. Parce que je rigole, Pascal. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Pour le débat caché, vous allez l'adorer, les copains.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Pascal Duprat. À partir de midi, les paris RMC autour notamment de Paris Saint-Germain. Lille, ce match très important en Ligue 1 avant la Ligue des Champions. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, vous êtes dans le noir et pourtant il va falloir débattre sur un sujet que je trouve, à titre personnel, passionnant. Le débat caché du jour, c'est ça.
On a tout le public autour de nous qui applaudit Charlie Dalin juste derrière nous, je ne sais pas si vous le voyez, fumigène à la main, qui célèbre avec les dizaines et les dizaines de bateaux venus le voir. Voilà, c'est un grand, grand moment pour Charlie Dalin. C'est ses retrouvailles, les retrouvailles avec son public, les retrouvailles avec son équipe.
Alors, vous avez tous entendu parler de Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024, arrivé il y a un mois et demi, de Violette d'Orange, cette jeune skipper devenue star des réseaux sociaux. Mais connaissez-vous Denis Van Winberg?
Eh bien, il est néerlandais?
Non, il est belge.
Ah, il est belge.
C'est
belge.
Le dernier du Vendée Globe. Il devait arriver demain. Il devait devenir le premier belge de l'histoire à boucler le tour du monde. Et finalement, mais GG, il n'en sera rien. Le skipper de 57 ans a été victime il y a quelques jours d'une avarie de grande voile. Il devrait donc arriver dimanche en 8, comme on dit, sauf que ce sera le 9. Dimanche 9 mars. Sauf qu'il y a un problème. La ligne d'arrivée du Vendée Globe ferme le 7 mars à 8h du matin. C'est dans le règlement. Et ce serait donc une première dans l'histoire. Le Belge arrivera hors délai. Le chenal des Sables d'Olonne devrait rester ouvert pour accueillir le dernier skipper. Mais
non,
le village.
Ils n'attendent pas, ils mettent les canons et ils vont le bombarder.
Mais le village sera fermé. Son nom ne sera donc pas inscrit dans le classement final. Ce skipper ne touchera pas aussi les 4 348 € de prime promis au skipper à partir de la 11e place. Sa prime sera reversée aux autres navigateurs qui toucheront donc
232,58 €.
Chacun 197 euros supplémentaires. Est-ce totalement injuste? Oui ou non? Il y a des règlements dans le sport. Oui ou non? Est-ce que c'est totalement injuste, Sarah Pitkowski?
Voilà, mais c'est mille fois trop injuste.
Ok.
Non, le sport, c'est le sport.
Ok. Pascal Duprat.
C'est pas injuste, mais c'est cruel.
Ok, c'est pas injuste, mais cruel.
C'est affreux et ça me. S'ils font vraiment ça. Je n'interviewerai plus jamais un marin du Vendée Globe.
Mais lui, il y est pour rien, le marin.
Que toutes les attachées de presse le sachent, si vous faites ça au Vendée Globe, il n'y aura plus de marins du Vendée Globe.
Mais les autres teams sont pour rien.
Non, mais je m'en fous. Alors, non, mais à un moment, tu fais pression. Quand tu es marin du Vendée, tu fais pression auprès de la direction générale pour que la ligne soit ouverte pour quelques heures. Il y a 24 heures d'écart où tu mets un planton là. De toute façon, il sera attendu par les spectateurs. Mais tu ne vas pas
le sucrer. Oui, parce qu'il y a un appel. Aux fans qui seront là.
Pour prendre le départ de cette course, il avait le plus petit budget de tous. Il est en galère et tu vas pas l'attendre. Mais c'est inhumain de pas faire ça.
Alors Sarah,
je le prends pas sur ce côté-là. Effectivement, il faut des règlements dans le sport. C'est-à-dire qu'il faut bien que cette ligne se ferme à un moment ou à un autre. Cependant, l'organisateur, le Vendée Globe, a aussi, par le passé, ajusté ses règlements. Et je ne doute pas une seconde que même s'il passe la ligne d'arrivée après, ce sera réajusté. On se souvient de la polémique autour des télécommunications entre Clarisse Kremer et son mari, qui a fait un scandale, comme quoi il y aurait peut-être eu de l'aide de l'extérieur. Il y a le fond et il y a la forme, et il faut mettre des règlements. Mais là, en l'occurrence, je suis sûre qu'elle sera assouplie, cette règle. Il va y avoir un ajustement. Alors, aujourd'hui, oui, ça paraît polémique, c'est cruel, c'est injuste, mais je ne peux pas croire une seconde que le Vendée Globe, qui est une compétition, il n'y a même pas de mots pour dire ce que ces skippers et ces skippettes font. Je ne peux pas penser une seconde que l'organisateur n'ajuste pas cela. Je pense qu'on attend de savoir exactement quand est-ce qu'il va arriver, parce que là, forcément, c'est des prédictions.
Qui ont l'air assez justes.
Oui, hein, mais
on annonce qu'il sera forcément en délai.
Oui, il arrive vendredi et c'est dimanche. Ça ferme vendredi, il arrive dimanche.
Oui, après la météo bouge. Voilà, après la météo peut bouger. Mais je peux pas croire une seconde que ça bouge pas.
Moi, j'espère que ça bouge pas. Parce que ça dévaloriserait complètement quelque chose. La valeur, c'est de respecter le délai, c'est de le faire dans le temps imparti. Ben, à un moment, j'aime beaucoup cette locution latine, dura lex, sed lex. La loi est dure, c'est la loi. Il faut la respecter.
Oh non, mais alors moi,
à un moment, quelle est la valeur de quelque chose quand tu le fais hors délai? Ben, je sais pas. Même pour lui, je pense que, manque de peau. C'est pas de chance.
Tu ne peux pas le mettre sur les tablettes, quoi.
Je pense à lui, mais c'est comme ça.
J'ai envie d'aller voir Christophe.
Alors, va lui jeter une grenade depuis un hélicoptère, parce que de toute façon tu n'as pas de cœur et tu es un homme
respecte la loi,
parce que le hors délai, tu connais ça en vélo, le hors délai, alors ça paraît parfois injuste parce qu'il y a des sprinteurs qui se sont saignés dans l'école pour essayer d'arriver, mais parfois ils peuvent pas reprendre le départ
parce que le lendemain la course continue, il y a des étapes supplémentaires, donc qu'un mec arrive avec ne se soit pas fatigué comme on dit, sur une étape de col et arrive en fumant la pipe, le lendemain, il sera peut-être plus reposé pour attaquer, pour emporter notre étape. Là, on est à la fin d'une compétition. On est à la fin d'une compétition et ça se joue sur 48 heures. Donc, s'ils veulent faire marquer les esprits en disant « Regardez, nous, on est des durs, on respecte la loi », qu'ils le fassent. Mais franchement, ils perdront mon estime. Et puis, même en vélo, lorsque tu arrives hors délai, il est arrivé
par le passé
que les délais soient repoussés et que les garçons soient repêchés. Donc, j'espère.
Donc, c'est plus du sport, c'est des belles histoires. C'est une belle petite histoire, le Vendée Globe. Moi, j'aime beaucoup.
Il a vendu, il a tout vendu, il a tout mis.
Et il a perdu.
Toutes mes saisons.
Et il va au casino, il mise sur le noir, il a tout vendu, il perd, c'est le rouge qui sort, et attends.
Ok. Bon, vous êtes tous les deux dans l'excès, donc je vais donner la parole à Pascal, un homme.
Non, mais il va y avoir un juge de paix.
Je te rappellerai ta position sur d'autres sujets.
Il va y avoir les fans qui vont venir le saluer immanquablement, quelle que soit la décision prise par les organisateurs.
Bien sûr, oui.
Donc, de ce point de vue-là, de toute façon, il sera salué comme un héros, quoi qu'il en soit. Par contre, moi, je voudrais juste finir par une note positive. C'est dommage qu'il ait manqué de vent, parce qu'avec un nom comme ça, Van Winberg, voilà, il aurait pu arriver à l'or quand même avec ce nom-là. Voilà.
Vent et wind. Deux fois vent en plus.
Vous savez, vous savez pourquoi il faut aussi une souplesse par rapport à ça. C'est parce que c'est un sport où on ne part pas avec tous les mêmes chances au départ. Il y a des vieux bateaux, il y a des nouveaux bateaux, il y en a à foil, il y en a sans foil. Donc, quoi qu'il arrive.
Ça s'appelle la vie, on part pas tout ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce sport a quand même un grand facteur d'inéquité. Donc, ayons un peu de souplesse.
Ok, on demande à l'organisation d'avoir un peu de souplesse, sauf Fred Weiss, mais on demande d'avoir un petit peu de souplesse et je suis sûr.
Mais il n'est pas souple, Fred, qu'ils vont réajuster tout ça.
Il n'a pas tout à fait le même bateau que Charlie Dalin, quand même.
Et puis, il y a juste une information que je ne vous ai pas donnée, c'est que lui, notre ami belge, il est parti en 2020. Donc, bon. 5 ans, ça fait un peu. Pour être inscrit sur les tablettes et classement final, c'est un peu beaucoup.
On peut peut-être l'avoir dans les grandes gueules la semaine prochaine, non?
Avec grand plaisir. On, on l'appellera. Voilà. On n'a pas le temps de se souvenir des bonnes histoires du Vendée Globe, mais on le refera dans une autre émission. Il est 11h56. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci de nous écouter. Christophe, je te souhaite un bon week-end vu que tu ne seras pas là demain. On t'embrasse, mon cher Christophe.
Ouais, je vous laisse Fred, parce que là, il a envie de tuer tout le monde. Donc,
Tout va bien se passer. Allez, à tout de suite sur RMC pour les paris RMC. Demain, les grandes gueules du sport à partir de 9h. Salut.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.